Elisabeth Le Goff.
Les premiers régimes de retraite, en fait, le tout premier, c'est sous Louis XIV, pour les marins, en 1673. Puis il y a eu celui de l'Opéra de Paris en 1698. Ensuite les militaires en 1831, les fonctionnaires en 1853, les mineurs en 1894 et les cheminots en 1909. Et il y a eu ensuite des régimes spéciaux pour les entreprises nationales, donc les régimes spéciaux actuels en fait, qui ont des missions de service public. Les régimes spéciaux pour les entreprises nationales ne concernaient pas que les retraites, mais aussi toute la protection sociale. En 1945, quand est mis en place le régime général pour les salariés, il préexistait déjà des régimes divers et nombreux, et des conditions telles qu'on ne pouvait pas harmoniser et mettre le régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des salariés du privé au même niveau que les régimes de retraite déjà existants. Ce qui a été mis en place en 1945 a été étendu en 1948 pour les non-salariés. Ensuite, il y a eu des régimes complémentaires qui ont été instaurés et rendus obligatoires. D'abord, pour les cadres, c'est l'AGIRC, en 1947, et pour les ouvriers, c'est l'ARCO, en 1961. Tous les régimes spéciaux, salariés, non salariés, tous ces régimes ont un point commun, c'est que ce sont des régimes dits par répartition. Les cotisations versées par les salariés et les employeurs au régime de retraite, ce sont ces cotisations qui servent à verser les retraites. Dans les régimes spéciaux, vous avez 500 000 cotisants pour 1 million de retraités. Dans ces régimes spéciaux, il y a les mineurs. Or, les mineurs, ils sont tous à la retraite et il y a plus d'actifs. Hein. Donc, il est très déséquilibré aussi à cause de ça. Donc, les régimes spéciaux, ça fait 2% de l'ensemble des cotisants et ça fait 6% des retraités. Donc, l'espérance de vie après 60 ans, en 1932, c'était 14 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. En 1990, l'espérance de vie pour les hommes qui ont atteint 60 ans, c'est 19 ans. Et pour les femmes, 24 ans. Chaque année, l'espérance de vie augmente de 2 mois. Donc, on doit être autour de 22 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes. Vous voyez, il y a des différences hommes-femmes et il y a aussi des différences selon les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire que les cadres ont des espérances de vie plus longues que les ouvriers. L'espérance de vie des ouvrières femmes est supérieure à l'espérance de vie des cadres hommes. Dans le débat qui dit oui, il faut tenir compte des catégories socio-professionnelles, si on mène la logique jusqu'au bout, il faudrait différencier hommes et femmes, ce qui paraît quand même là plus difficile. Sur des problèmes de financement de retraite, on peut jouer sur trois paramètres. Les trois paramètres, c'est le montant des retraites, la durée des cotisations ou l'accroissement des cotisations. Dans les projections qu'a fait l'INSEE, avec des hypothèses de démographie, de chômage et de croissance plausible. Si on ne change rien donc aux cotisations et qu'on ne joue que sur le montant des retraites, alors la pension moyenne passerait de 78% du revenu moyen d'activité, passerait à 42% à l'horizon 2040. Si on n'équilibre que sur la durée de cotisation, d'ici 2040, il faudrait allonger de 6 ans la durée de cotisation, ce qui correspondrait à l'allongement de la durée de vie d'ici 2040. Enfin, si on joue que sur l'accroissement des cotisations, donc il faudrait augmenter de 35% les cotisations, donc à système constant. Et même plus si on veut la même progression du pouvoir d'achat.
Jean-Marie Pernaud.
Bah, c'était aussi l'aspiration à la retraite à 60 ans, hein, cette époque-là, oui, qui était toujours l'idée de partir plus tôt, chose qui apparaissait un petit peu quand même comme horizon de progrès social, absolument, partir plus tôt. Et aujourd'hui, on inverse le discours avec cette idée que l'espérance de vie augmente. Après tout, on pourrait se dire, bah, c'est très bien, ça fera une retraite plus longtemps et en meilleure santé. Mais là, il y a un enjeu politique, puisque on est plutôt dans une logique d'assignation au travail prolongé. Alors, sur le modèle de certains pays, comme en Europe du Nord ou ailleurs, où effectivement les gens travaillent plus tard, mais ils n'ont pas exactement les mêmes conditions de travail dans les entreprises une fois qu'ils sont âgés, encore que ce problème du vieillir au travail se pose dans toute l'Europe. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de l'IRES, on est en train de terminer un numéro spécial de notre chronique internationale là-dessus, sur les réformes des retraites et l'effet sur les personnes âgées, enfin sur l'emploi des personnes âgées. Et on s'est rendu compte, en faisant des enquêtes pays par pays, qu'en réalité, tous les pays ont les mêmes problèmes.
Oui,
tous les pays ont les mêmes dispositifs de mise en touche des travailleurs vieillissants. En France, on a 38% des gens qui sont en emploi quand ils prennent leur retraite.
Oui.
Ça veut dire que tous les autres sont dans des dispositifs. Alors chez nous, c'est les pré-retraites, c'est les dispenses de recherche d'emploi, etc. Les Anglais, c'est dans un fonds invalidité. Les Néerlandais, c'est pareil. Les autres, c'est des systèmes de pré-pension qui sont en Belgique, mais même en Suède, même dans ces pays-là. Il y a énormément de gens qui sont en fait pas au travail lorsqu'ils prennent leur retraite. Et que c'est un petit peu singulier de voir qu'on recule sans cesse le nombre d'annuités nécessaires sur la pression du patronat, d'ailleurs, qui continue à dire 41, 42, 45, alors que les entreprises continuent systématiquement à évacuer la force de travail quand elle est vieillissante. J'ai souvenir, pour avoir regardé ça, pendant le mouvement de 2003, le moment de l'année où il y a eu le plus de contrats signés, parce qu'avant, ça a été diminué depuis, mais les pré-retraites, les systèmes de pré-retraite négociés, on appelait ça les CATS, là, les départs des anciens travailleurs salariés, là, donc, eh bien, le mois de l'année 2003, où il y a eu le plus de CATS qui ont été signés par les entreprises, c'est-à-dire des plans de pré-retraite, c'est le mois de juin. C'est celui où il y avait les grandes manifestations contre le rallongement de la durée de cotisation. Donc on avait un double... Où le patronat disait au gouvernement, tenez, il faut tenir bon, il ne faut pas revenir sur le rallongement des durées de cotisation, etc. Donc on a là, effectivement, des discours et des pratiques qui ne sont pas tout à fait adéquates. Donc, si vous voulez, il ne faut quand même pas raisonner non plus à un stock de richesse constant, puisque cette société continue à produire de la valeur, et que la vraie question qui est posée, c'est que dans une société qui vieillit, on sait très bien qu'il faudra consacrer, qu'on va avoir des personnes âgées en plus grand nombre, même si les calculs, on ne sait pas très bien, parce que quand même, je pense que le scénario qu'a fait l'INSEE là, quand même, modifie un petit peu les tendances à moyen terme. Ça allège un petit peu la pression quand même sur le financement. Hein. Mais bon, il y a des comportements qu'on ne peut pas anticiper sur 30 ou 40 ans. On sait très bien que la société vieillissante, le problème du financement de cette partie de la population est posé. Donc la question, c'est est-ce qu'on déplace de la richesse supplémentaire vers ça? Et de toute façon, si on ne le fait pas sur les retraites, on le fera sur la grande dépendance, on le fera sur la santé, on le retrouvera ailleurs. Hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'on puisse régler les problèmes séparément les uns des autres. Les problèmes sociaux, si on paupérise, si on continue, parce que la tendance est là, à paupériser les régimes de retraite, on va retrouver ce problème-là sur la santé. Parce que les gens en mauvaise santé, les gens qui ont des mauvaises conditions de vie, ils ont une mauvaise santé. Alors à moins, effectivement, qu'on en vienne à la solution radicale, l'extinction des gens trop âgés parce qu'ils coûtent trop cher, eh bien, il faudra bien que tout ça soit pris en charge. Et donc... C'est un espèce de jeu, on se repasse la patate chaude, mais enfin, un régime dépendance, etc., tout ça est solidaire. Alors, je voulais finir quand même sur les régimes spéciaux en disant pourquoi, en quoi sont-ils spéciaux? Parce qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne électorale et puis après que c'était des régimes, vous savez, inéquitables, et puis c'est le budget de l'État qui compense, etc. Alors, il faut être précis là, sur ce que compense. Hein, ils sont spéciaux, ces régimes-là, parce que ce sont des régimes d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils assurent tout seuls les cotisations et le versement des pensions. Ce n'était pas tellement possible que ça fonctionne comme ça, parce que, bon, elle a évoqué les marins, mais les cheminots, ils sont 160 000, il y a 300 000 retraités cheminots. On sait bien que ce n'est pas les actifs cheminots qui vont financer la retraite. Donc l'État verse une compensation à caractère démographique. Elle est 2,5 milliards d'euros par an à la SNCF. Elle fait en tout 5 milliards pour l'ensemble des régimes spéciaux. Mais c'est tout ce que finance la contribution de l'État. Elle finance le déséquilibre démographique. Le caractère particulier de ces régimes qui étaient 37 annuités et demi, le départ à 55 ans, voire moins, etc., tout ça est financé dans l'entreprise par une surcotisation. Enfin, ça rentre dans des arrangements d'entreprise. Mais ce n'est pas du tout... Les transferts de l'État vers ces régimes-là ne visent pas du tout, ne contribuent pas du tout hein, au départ après 37 annuités et demi, etc. C'est une pure compensation démographique. Il faut bien savoir que dans le régime général, cette compensation démographique, elle existe au quotidien. Il y a beaucoup plus de retraités de l'automobile que de salariés de l'automobile. Et c'est les salariés du commerce aujourd'hui, qui sont beaucoup plus nombreux que les retraités du commerce, qui financent les retraites. Et c'est ça le génie, d'ailleurs, du système par répartition. C'est pas seulement une distribution dans le temps, c'est une distribution dans l'espace. Ça produit des, entre les hommes, les femmes, etc. Tout ça, c'est ça le caractère particulièrement moderne d'un régime de répartition. Il lisse les risques. Il lisse tous les à-coups de population, de secteur, la vie économique, etc. Regardez l'automobile américaine aujourd'hui. Ils sont plombés par la dette sociale, par les fonds de pension d'entreprise. Ford est en train de mourir. Bon, alors là, ils ont dégagé leurs fonds de pension à l'extérieur. Ils vont sinistrer un peu plus les retraités américains. Bon, apparemment, là-bas, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais bon, ces régimes d'entreprise sont évidemment extrêmement vulnérables à la démographie de l'entreprise elle-même. Si on maintient les baby-boomers un peu plus longtemps dans l'emploi, ça va freiner l'accès des jeunes. Ou alors ça accroîtra leur trajectoire de précarité. Et donc, quoi qu'on en dise, c'est eux qui vont hériter de systèmes de retraite complètement dégradés. Donc c'est un ensemble de questions. Et si aujourd'hui, c'est tout à fait clair, alors le gouvernement se désespère, Sarkozy a dit qu'il allait obliger les entreprises à garder les anciens, on a fait un plan senior qui ne marche pas, Le problème, et c'est ce que je disais, il existe dans toute l'Europe, on ne sait pas aujourd'hui laisser vieillir les gens dans l'emploi. On ne sait pas adapter les postes de travail pour les travailleurs vieillissants. On ne sait pas faire ces choses-là. Les Nordiques savent à peu près, c'est les seuls. En Allemagne, vous voyez qu'on parle de la retraite à 65 ans, 67 ans, etc. Mais les gens sont dans la même situation en Allemagne. Ils partent à 58, 59 et ils quittent l'emploi dans ces âges-là. Parce que les entreprises partout, qui sont sommées de produire, de sortir du cash, etc., eh ben, les gens qui ne suivent plus les cadences, on les met dehors. Toutes les études montrent que la montée du stress au travail, les tensions sur les conditions de travail sont devenues plus fortes. Alors ça inverse aussi un mouvement historique. Qui avait commencé dans les années 60-70, de détendre des conditions de travail. On est rentré dans un cycle retourné. Et du coup, la question de la vie au travail, qui est une question centrale, se pose d'autant plus lorsque, et ça c'est les objectifs de Lisbonne, donc au niveau européen, maintenir les gens dans l'emploi, reculer de 5 ans l'âge moyen de départ en retraite. On est très très loin au niveau européen. On a avancé de 6 mois en moyenne au cours des 4-5 dernières années. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment l'échec majeur. Le rallongement des durées exigées pour partir en retraite est un échec en ceci que les gens partent au même âge. Et donc, ils partent avec des retraites plus faibles. C'est simple. Et le poids de la décote, qui est ravageur, a été heureusement allégé en 2003, puisqu'on a passé dans le privé de 10% à 5%, probablement parce qu'on s'était rendu compte qu'on allait sinistrer le niveau des retraites trop vite. Mais enfin, c'est quand même, il faut le savoir, c'est la tendance qui est que tant qu'on n'aura pas créé une détente sur le marché du travail, sur la question de l'emploi, notamment celle des travailleurs âgés, mais aussi celle des jeunes entrants, parce que s'ils rentrent à 24-25 ans, après 2-3 ans de stage, et qu'on n'a même pas été foutu de valider des périodes d'activité à travers les stages, eh bien ces gens-là n'atteindront jamais 40-41 ans de cotisation, sauf à des âges canoniques.